Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus, ravis de vous accueillir dans votre nouveau numéro de Bistro Vélo. Dans quelques instants, Hugo, le coureur canadien de la formation à Astana Première Tech, sera en notre compagnie. Mais avant cela, comme d'habitude, vous en avez l'habitude, je vous propose de découvrir le menu du jour, abnégation et résilience. On parlera du parcours de Hugo, ce qu'il a amené en Europe avec la formation AG2R La Mondiale, puis l'équipe Astana. Le Bistro News, on parlera des championnats du monde, la victoire de Philippe Ogana. On fera le point sur la course de dimanche. Et enfin, notre rubrique Made in Québec. On essaiera d'en savoir un peu plus sur notre invité, savoir qui est l'homme qui se cache derrière le coureur. Hugo Hull est notre invité. Sois le bienvenu, Hugo. Comment ça va?
Bonjour, ça va bien. Un peu fatigué après un bon effort hier contre la montre des championnats du monde, mais je me porte bien.
Alors Hugo, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de regarder la course, on le rappelle, tu as pris part donc à cette épreuve chronométrée. Tu as pris la 20e place à un peu plus de 3 minutes du vainqueur du jour, le champion du monde en titre, Philippe Ogana. Quelles sont, allez, après coup, tes premières impressions sur ce contre-la-montre? Est-ce que tu es satisfait de ta performance ou alors tu es déçu?
Non, je suis satisfait. Je pense que je suis dans mon rang. Les trois premiers étaient dans une classe à part sur tous les deux premiers. Je salue leur performance, c'est impressionnant. Pour ma part, là, j'ai eu un bon départ. Après, j'ai souffert beaucoup sur la section de mi-parcours où des longs bouts droits où il faut garder une puissance constante et au fil des kilomètres, ça use. Il faut être fort mentalement. Puis les 10 derniers kilomètres, j'ai réussi à reprendre un peu plus l'allure en augmentant la puissance, là, mais dans le milieu, j'ai vraiment souffert là, où mentalement, j'avais une journée un peu plus difficile où c'était difficile de tenir les watts que je désirais. Là. Mais somme toute, satisfait, j'étais capable de livrer un bel effort et 20e, pour moi, c'est une belle performance.
Un vrai contre-la-montre pour les puristes. J'imagine, Hugo, que ça doit toujours être un moment particulier pour toi de représenter ton pays, le Canada. Tu l'avais déjà fait récemment sur les Jeux Olympiques, tu étais présent du côté de Tokyo et donc de remettre cette tunique, c'est toujours un moment particulier?
Certainement, je me considère toujours privilégié d'avoir accès à participer aux championnats du monde ou aux Jeux olympiques. Quand je me compare avec vous en France, il y a beaucoup plus de cyclistes, donc les places sont chèrement acquises. C'est pas tout le monde qui a la chance de pouvoir vivre ça des Jeux olympiques. Puis en étant canadien, évidemment, il y a moins de coureurs qui sont présents sur le circuit professionnel. Donc, ça nous donne des opportunités, des fois, de participer plus souvent à ces événements-là, d'avoir la chance de vivre ça année après année. En sélection française, c'est beaucoup plus difficile d'obtenir son billet chaque année.
Puisqu'en plus, toi, Hugo, tu as quand même beaucoup voyagé ces dernières semaines, puisque, on le rappelle, il y a encore une quinzaine de jours, tu étais retourné au pays pour les championnats nationaux, les championnats du Canada qui se sont déroulés. Tu as d'ailleurs remporté l'épreuve du contre-la-montre. Tu es le champion du contre-la-montre du Canada 2021.
Effectivement, c'était mon objectif là, un peu de fin de saison après Tokyo, où j'avais bien performé au chrono. Nous, faut dire que normalement, quand il n'y a pas la COVID, les championnats nationaux se font au mois de juin, juste avant le Tour de France. Donc, je pense que la dernière fois que j'avais participé, c'était en 2016 au championnat canadien. Donc, cette année, ça a été reporté en septembre, ce qui me permettait là, de faire le voyage et d'inclure ça dans ma saison plus facilement. C'était important pour moi là, de livrer une belle performance au chrono. Je savais que j'étais un des favoris, mais encore, fallait assurer la performance. Je suis très content là, d'avoir l'honneur l'année prochaine de porter son maillot en Europe. C'est tout le temps une belle distinction, là. Et de porter la feuille d'érable ici.
La fameuse feuille d'érable, tu es en plus, je crois, Hugo, ambassadeur sportif de l'érable du Québec. C'est bien ça? Je ne me trompe pas?
Yes, exact. Un excellent consommateur des produits d'érable, sirop d'érable, pour ceux qui connaissent. J'en ai quelques conserves là, ici pour être certain de tenir jusqu'à la fin de l'année et même un an encore plus.
Alors, Hugo, on te connaît depuis longtemps, tu es en Europe, tu as longtemps porté les couleurs de la formation AG2R, tu étais passé par l'équipe SpiderTech également à tes débuts, tu as découvert l'Europe il y a déjà quelques années, tu as d'ailleurs passé 5 ans avec l'équipe AG2R de Vincent Lavenu. Moi j'ai envie de savoir, comment est-ce qu'on s'acclimate justement lorsqu'on vient du Canada, on a une autre culture, comment est-ce qu'on s'acclimate à l'Europe? Toi, est-ce que ça s'est fait naturellement ou alors est-ce que tu as mis un petit peu de temps?
C'est certain qu'il y a une période de transition, que ce soit sur le vélo, mais aussi dans la vie au quotidien. La culture est différente. Au Québec, on est habitué à des grands espaces. Moi, je suis arrivé dans l'équipe de Vincent, j'ai 2 ans à la mondiale. Écoute, je venais de terminer ma dernière année U23. Faut apprendre à gérer des visas, acheter un auto, trouver un appartement. Donc, pour nous, c'est une réalité qui est un peu différente la première année. Mais une fois qu'on s'y fait, ça va bien. Au niveau du cyclisme, c'est clair que j'ai eu beaucoup d'apprentissage à faire parce que notre culture en Amérique du Nord est différente. Déjà, les parcours sont très différents. Nos routes sont plus larges. Il y a moins de petites routes. Il y a moins de coureurs qui ont un haut niveau, comme ici en Europe, sur les Coupes de France. On peut trouver déjà un très haut niveau qu'on n'a pas en Amérique. Donc, c'est clair que quand on arrive, on est un petit peu déstabilisé, puis il faut se donner le temps d'apprendre et de comprendre un peu le fonctionnement des courses. Puis, j'ai eu la chance là, de joindre la Jeux Olympiques mondiale assez jeune pour qu'ils puissent me transmettre l'expérience dont j'avais besoin, puis tranquillement changer ma mentalité, même si j'étais un peu dur à convaincre au début. Il y a quand même beaucoup de savoir en France et en Europe qu'on n'a pas en Amérique du Nord, puis il faut être capable de s'ouvrir. Je pense qu'on a aussi des bons points au niveau de la science de l'entraînement, mais il reste qu'il faut être ouvert d'esprit. Puis cet échange entre notre mentalité de Nord-Américain et la mentalité européenne, si on arrive à mettre ça ensemble, je pense que ça fait un beau résultat au final. Puis au fil des années, je pense que c'est ce qui m'a permis d'évoluer en ayant une ouverture d'esprit sur des techniques ou la culture ici.
Est-ce qu'il y a un clan des Canadiens en Europe? On le rappelle, vous êtes sept à évoluer en World Tour, dont Michael Woods, Guillaume Boivin, Antoine Duchesne ou encore James Piccoli. Est-ce que vous vous regroupez régulièrement ou alors vous êtes chacun de votre côté?
Je dirais que j'ai fait 5 ans avec Antoine Duchesne en France lorsque j'étais chez AG2R. Donc, nous, on s'entraidait entre les compétitions aussi. On avait moins le mal du pays, si on veut, lorsque tu rentres d'un week-end de course qui est un peu dur. Quand tu es seul pour le repas, c'est moins gai qu'avec quelqu'un d'autre pour discuter. On a beaucoup de coureurs canadiens maintenant qui privilégient l'Espagne, dans le coin de Gérone, où il y a beaucoup de coureurs cyclistes internationaux, c'est connu. Pour ma part, là, ça fait 2 ans que je suis à Monaco, donc pas beaucoup de Canadiens. On a un peu d'Américains qui sont à Nice, que j'ai la chance de côtoyer, puis aussi un bon peloton international ici, là, on est à peu près une cinquantaine. Donc ça me permet de côtoyer d'autres cyclistes et de m'entraîner avec de très bons coureurs. Mais il n'y a pas vraiment un point précis, là. Je dirais qu'en Espagne, avec la présence d'Israël, c'est un top nation, il y a beaucoup de coureurs, de jeunes Canadiens qui arrivent et qui vont s'installer aussi en Espagne parce que le climat est favorable. Puis Michael Woods est là-bas aussi, dans le coin de Andorre, mais passe un peu de temps en Espagne aussi. Guillaume Boivin, la même chose. Donc tranquillement, je dirais qu'il y a plus un pôle canadien qui s'est développé en Espagne que ici, dans le sud de la France.
J'imagine, Hugo, que les 2 dernières saisons n'ont pas dû être forcément très faciles avec la situation sanitaire. Pas évident peut-être de voyager du côté du Canada. Est-ce que tu as eu quand même l'opportunité d'aller rejoindre la famille de temps en temps ou alors tu es resté vraiment en Europe?
Ah, je suis resté 100% du temps à Monaco jusqu'à qu'est-ce que je rentre au pays au mois d'août après les Jeux Olympiques pour aller visiter ma famille après pratiquement 18 mois. Donc,
Ah oui,
j'ai fait
18 mois. Ouais.
ouais, j'ai fait 100% de la saison ici, 2020, pratiquement sans rentrer au Canada pendant un an. J'ai eu la chance, là, juste avant que la COVID nous frappe, de m'installer en Europe avec ma copine 100% du temps. Donc, nos papiers étaient en règle, on était officiellement résident de Monaco, donc ça a été assez simple à gérer, mais c'est clair qu'on a été privé de voir nos parents pendant une longue période. Ça fait partie de notre réalité aussi, en étant expatrié en Europe pour pratiquer la compétition de nouveau, ici.
Justement, tu parlais de ta saison 100% en Europe. Bah, cette année, on t'a vu quand même te mettre en évidence. Notamment, tu es devenu un véritable baroudeur. On t'a vu en échapper sur le Tour de France. C'était sur l'étape qui arrivait du côté de la Drôme, du côté de Valence. En échapper également sur le Tour des Flandres avec Stefan Bischegger. Échapper il y a encore quelques semaines sur le Tour du Benelux. C'est quelque chose qui était préparé ou alors ça s'est fait comme ça?
Ben, je dirais que j'ai une meilleure compréhension de la course qui me permet de flairer un peu mieux les bons coups. Après, au niveau de la condition physique, je suis plus performant qu'il y a quelques années. Donc, j'ai progressé à chaque année. C'est ce qui m'encourage toujours à repousser mes limites parce que je vois encore que j'ai une marge de progression. Après, cette année particulièrement, peut-être que j'avais plus de liberté dans l'équipe Astana Ponytech qui me permet de prendre plus ma chance. Comme exemple, au Benelux, au Tour de France, il n'y avait pas la présence de Jakob Fuglsang, donc j'étais quand même plus libre. On n'avait pas nécessairement de leader cette année au classement général
Ouais.
pour le Tour de France. Donc, ça me donnait plus de liberté. Les années d'avant, on avait Jakob Fuglsang ou encore Miguel Angel Lopez. Donc, j'étais ça tous les jours. Mon travail, c'est vraiment d'être 100% du temps à côté de nos leaders lorsque les gars sont prêts pour faire un beau classement général. Cette année, j'ai eu plus d'opportunités. J'avais envie de les saisir puis d'essayer de me faire voir un peu. Puis il reste que l'objectif ultime, c'est de gagner une étape. Je ne gagne pas souvent. Je suis plus un travailleur qu'on ne voit pas nécessairement, mais je me plais bien dans ce rôle-là. Mais en même temps, lorsque l'opportunité se présente, c'est tout le temps le fun d'être agressif puis de courir à l'avant.
Oui, on a pu parler, pour préparer l'émission, à quelques-uns de tes coéquipiers. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est toujours ce mot qui ressort. Tu es un fidèle équipier, on aime courir avec toi, tu es toujours de bons conseils, tu es là pour protéger tes leaders. C'est un rôle qui te convient aujourd'hui, avec l'expérience?
Oui, certainement. Ben, tu sais, j'ai vite compris aussi qu'à un certain moment, j'avais peut-être pas les qualités pour gagner les grands tours ou des choses comme ça. Ouais. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment de travailler le plus fort possible pour être le plus utile à mon équipe, sur le plus de terrain possible. Et à ce moment-là, ma plus belle récompense pour moi, c'est lorsque mes coéquipiers me félicitent à la fin de la journée, qu'ils sont fiers du travail. Et quand ils demandent ma présence sur les courses, c'est un peu ma récompense de savoir que mon travail est apprécié. Évidemment, faut pas louper les opportunités qui se présentent, mais en premier lieu, je suis tout le temps fidèle au plan de l'équipe puis faire le travail pour la formation. Puis c'est comme ça que j'ai réussi à rester, je pense, dans le peloton professionnel sans gagner de grandes classiques ou des choses comme ça, mais j'arrive à avoir un impact important pour mon équipe sur divers terrains, que ce soit en montagne, sur le classique, je peux aider aussi. Donc, le fait d'être polyvalent, je pense que je me démarque peut-être de certains autres de mes coéquipiers.
Et justement, Hugo, nous, on aura envie de savoir que va faire Hugo Hull l'an prochain, car on le sait, tu ne prolongeras pas l'aventure avec l'équipe Astana. Il y a le sponsor Première Tech qui, on le rappelle, est un sponsor canadien qui devrait changer d'équipe, mais on n'a pas encore de nouvelles. Est-ce que toi, tu en as de ton côté?
Oui, je suis bien au fait du dossier. Effectivement, comme tu l'as mentionné, Première Tech va quitter Astana Première Tech à la fin de la saison pour une divergence au niveau de la vision à long terme du projet et de l'implication qu'il voulait avoir, en fait, Premier Tech est dans le vélo depuis 3 ans maintenant chez Astana.
Oui.
Il veut être là encore pour plusieurs années, évidemment, avoir un impact pour le cycliste canadien puis tracer la voie pour les prochains Hugo Hull. On est arrivé à un point où, avec le Kazakhstan, la philosophie était différente et d'un commun accord, chacun des partis a décidé que c'était mieux de continuer chacun de notre côté.
D'accord.
Il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour Premier Tech et ni pour moi pour les prochaines années à venir. Comme ça a été mentionné là, dans la presse au Canada, c'était clair pour moi que j'allais suivre Premier Tech, qu'on a développé une belle complicité. Puis, c'est des amis aussi, au-delà de la commandite, qui peuvent apporter. Donc, c'est important de rester ensemble. Je suis bien au fait du dossier. Puis, il n'y a pas de souci à se faire. Là, je devrais être dans le peloton jusqu'à 2024. Les annonces ne devraient pas tarder à arriver au courant des prochains jours.
D'accord. OK. Est-ce que tu sais, toi, même si tu ne veux pas nous le dire, on l'a bien compris, est-ce que tu sais où tu courras l'an prochain, dans quelle équipe?
J'ai une très bonne idée de où je vais atterrir l'année prochaine, mais ce n'est pas à moi à m'avancer sur aucune des destinations. Il y a eu pas mal de rumeurs à notre sujet, donc ouais. On va patienter un peu, mais ça sera certainement des bonnes nouvelles. Je pense que ça va avoir un impact positif là, sur le futur là, du cycliste canadien et aussi en Europe, là, de permettre à une équipe de se renforcer pour la saison.
On suivra ça avec attention. Forcément, tout à l'heure, tu as mentionné, en parlant des leaders avec qui tu avais pu courir, notamment sur le Tour de France, Jakob Fuglsang et Miguel Angel Lopez. Ah, j'aimerais avoir ton avis, parce que tu dois le savoir, tu as suivi l'actualité comme nous. Miguel Angel Lopez, il a été un petit peu au centre des débats ces dernières semaines, le Colombien de l'équipe Movistar, avec son abandon sur le dernier Tour d'Espagne. On l'a appris il y a quelques jours, il a décidé également de résilier d'un commun accord son contrat avec l'équipe Movistar. Est-ce que ça t'a étonné, toi, cette nouvelle, toi qui le connais bien? On le rappelle, tu as déjà fait le Tour de France avec lui notamment.
Ben oui, ça m'a étonné parce que en tant que coureur, je sais comment il est difficile de faire un grand tour et d'être si près du but avec un tel classement général pour complètement arrêter comme ça. Il faut, faut avoir des raisons, comment je dirais ça, majeures ou un complet jour sans où on perd complètement la conscience, je ne sais pas, parce qu'il avait investi beaucoup de travail pour être au niveau où il était. Il était en super forme. Même s'il n'était pas sur le podium, il reste qu'un top 5 de la Vuelta. Il avait tout simplement terminé l'étape et c'était bon. Donc, évidemment, il y avait des choses qui l'agaçaient. Honnêtement, je n'ai pas un contact proche avec Miguel Angel depuis qu'il est parti. Donc, pas vraiment d'informations de plus que vous. Donc, je ne peux pas juger. Mais c'est évident que je ne serais pas surpris de le revoir chez Astana l'année prochaine là, par rapport à ce qui a été dit et ce qui a été annoncé dans les médias. C'est mon opinion personnelle. Ça ne me surprendrait pas qu'il rejoigne Astana. Je pense qu'il était quand même bien. J'imagine qu'il n'était pas à sa place chez Movistar, qu'il n'était pas heureux. Mais ça, c'est son choix qui lui revient. Mais comme vous, j'étais surpris d'une telle réaction sur aussi près du but après autant d'efforts.
Ouais, toi qui as couru avec lui, notamment sur le Tour de France avec l'équipe Astana, il avait quel caractère, Miguel Angel Lopez? Tu t'entendais bien avec lui? C'était peut-être un caractère un peu fort? Ou alors, on l'avait vu déjà sur un Giro assez sanguin quand même, le Colombien?
Oui, ben Miguel, il est quand même assez réservé. Je ne peux pas dire que j'avais une relation très proche de lui. Évidemment, la barrière de la langue nous limitait un peu dans les conversations. On ne pouvait peut-être pas aller dans le détail aussi précis qu'avec quelqu'un qui parle le français ou l'anglais. Oui, on arrivait à se parler, mais de là à avoir des conversations diversifiées tous les soirs, je le connaissais moins. Là. Après, c'est un guerrier. Quand il y avait quelque chose en tête, il était solide. Il est répondu présent l'année où il a un peu perdu le pied du podium au Tour de France sur le dernier chrono où Richie Porte avait pris la place. Il avait terminé sixième, mais était troisième jusqu'au dernier jour où ça avait été bouleversé. Il avait été très solide, il avait très bien couru. C'est clair que la dernière journée, il en avait manqué un peu, mais après, il avait pas laissé présage de quoi que ce soit là, comme quelque chose qui est arrivé cette année. Il a déjà fait des beaux résultats sur le Giro aussi, donc j'étais surpris de voir qu'il arrête là.
Oui, on en revient justement au Canada depuis maintenant 2 ans. Le Grand Prix du Québec et le Grand Prix de Montréal, qui étaient les deux vitrines du pays avec le cyclisme, n'ont pas pu se tenir dû à la situation sanitaire. On espère que ça reviendra en 2022. J'imagine que ça t'a beaucoup peiné, cette situation, cette décision avec ces deux courses majeures que tu n'as pas pu disputer.
Oui, certainement. J'étais surtout déçu pour les organisateurs que je connais très bien, qui font un excellent boulot année après année. J'étais en relation avec eux. J'ai eu des nouvelles tout récemment. Ils sont présents sur les championnats du monde pour travailler sur les années futures.
D'accord.
On a très beaux projets. Je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à y avoir. Ils seront toujours présents au calendrier dès 2023 pour illustrer un peu la situation auquel ils ont dû faire face. Au Canada, en fait, les Européens sont autorisés à venir en voyage seulement depuis le 7 septembre.
Ouais.
Avant ça, c'était seulement les citoyens canadiens qui pouvaient entrer avec preuve de double vaccination. Et toujours aujourd'hui, un test PCR est obligatoire, même si on est vacciné. Donc, les règles étaient très serrées, ce qui a eu pour impact là, de limiter l'organisation pour une deuxième année de suite. On n'aurait pas pensé ça l'année dernière en étant bien tranquille, se disant que l'édition 2021 allait avoir lieu, mais finalement, bon, ils ont dit écourter aussi. Mais ils sont dans une bonne position. Évidemment, ce n'est pas simple pour eux, mais ils resteront au calendrier. Puis même s'ils ont dû faire l'impasse sur 2 années, ils sont une organisation assez solide pour rebondir en 2023, 2024 et plus, je pense.
Quelle vision, Hugo, on a au Canada du cyclisme européen? Alors nous, Européens, Français, on connaît Hugo Hull, on connaît Antoine Duchesne, Michael Woods, de par ses très bonnes performances au top niveau international. Un peu plus anciennement, Ryder Hegdahl, qui a remporté un Giro d'Italia. Et au Canada, on voit comment le cyclisme, on est plus culture hockey sur glace au Canada que vélo, normalement, c'est bien ça?
Effectivement, il y a une transition qui se fait tranquillement. Je dirais qu'il y a de plus en plus de gens qui pratiquent le vélo pour le plaisir, pas nécessairement des compétitions ou un niveau de compétition au niveau des jeunes développés, mais beaucoup d'épreuves style Grand Fondo où les gens s'adonnent pour diverses causes ou roulent en groupe pour garder la forme. Donc, de plus en plus de gens montent sur des vélos, pratiquent le sport, puis sont en mesure de mieux comprendre la dureté du sport et de l'apprécier encore plus. Évidemment, à une certaine époque, c'était très difficile de de regarder les courses cyclistes à la télévision. Il y avait juste le Tour de France qui était diffusé
Il y a le décalage horaire
aujourd'hui.
également, Hugo, c'est ça?
Oui, effectivement. Donc, par exemple, moi, quand j'étais plus jeune, j'écoutais le Tour de France le matin en me levant vers 9 h le matin. On
D'accord.
mettait à la télé, puis c'était directement le Tour de France. À midi, c'était fini, je pouvais partir rouler, tandis qu'en Europe, on l'écoute quand on rentre de rouler le final. Donc, c'est un peu la différence, mais là-dessus, ils sont capables avec la télévision de bien faire les choses. Mais de plus en plus, on parle de vélo. Je pense que Michael Woods a bien contribué. J'ai participé aussi. Donc, le fait qu'on soit actif sur les courses, ça attire la curiosité des gens. Avec les deux équipes World Tour qui ont quand même une saveur canadienne. Je parle ici d'Israël Startup Nation et Astana Promitec, l'équipe dans laquelle je suis. Il y a quand même une certaine saveur au niveau des partenaires canadiens qui tracent la voie un peu pour inspirer les jeunes Canadiens à se dire que c'est possible. On avait beaucoup de jeunes coureurs qui ont intégré des équipes DN1 en France cette année. Même malgré la COVID, on avait peut-être une dizaine de jeunes qui ont fait le déplacement en France pour courir. Donc, il y a quand même des jeunes coureurs qui arrivent. Puis, tranquillement, si on peut bâtir comment je dirais ça, un écosystème où on peut tracer la voie pour les prochaines générations du Google et servir des partenaires privés qui nous aident pour se développer puis grandir, devenir une nation plus solide.
Il y a un homme qui est grandement responsable de ce renouveau, de cet accompagnement du cyclisme canadien, c'est Pierre Hutsebo. Tu peux nous en dire un petit peu plus?
Oui, certainement. Mais moi, j'ai eu la chance de rencontrer Pierre dès mon jeune âge, lorsque j'étais junior, qui m'a permis de monter les échelons progressivement pour arriver jusqu'au World Tour. Pierre a été derrière plusieurs athlètes canadiens, que ce soit David Veilleux à l'époque aussi, qui avait été
Oui.
porté le maillot jaune au Dauphiné, qui a fait plusieurs années chez Europcar. Antoine Duchesne aussi passé sous les commandes de Pierre, que lui, ça fait déjà plusieurs années qu'il a immigré au Canada, qui a transmis un peu la culture du cyclisme, qui a monté son centre d'entraînement, qui a eu un gros impact sur le cyclisme canadien. Et avec Premier Tech, on est en train de mettre en place une équipe U23 qui va s'appeler Premier Tech Cycling, qui sera aussi chapeautée par Flavien Dassonville, qui est lui aussi français, basé pas loin de Paris. Pierre va être responsable du projet aussi pour essayer de créer une structure pour développer tranquillement nos coureurs, les apporter en Europe, qui puissent tranquillement se développer pour atteindre un niveau supérieur par la suite. Donc, il est toujours très impliqué au sein du développement à une plus basse échelle. Mais il y a un savoir qui est important chez nous, que très peu de gens ont pour transmettre aux jeunes la culture cycliste.
La course la plus médiatisée au Canada, ça reste le Tour de France, c'est l'événement de l'année un petit peu.
Oui, certainement. Je peux vous donner un exemple. Pendant plusieurs années, j'étais cycliste professionnel. Et quand je disais que j'étais cycliste professionnel, ils me demandaient si j'avais fait le Tour de France. Quand ma réponse était non, bien, ça voulait dire que je n'étais pas vraiment bon. Mais le jour où j'ai fait le Tour de France, là, je suis devenu un vrai cycliste pour les Québécois.
D'accord. Ah, ça c'est une bonne anecdote, Hugo. On va passer à la deuxième partie, le Bistro News. Alors, on a parlé bien sûr du contre-la-montre. Tu étais présent hier avec la victoire de Philippe Ogana. Chez les dames, ça s'est terminé il y a quelques instants. C'est Hélène Van Dijk, la néerlandaise, qui s'est imposée. Ta compatriote Carole-Anne Canuel a pris la 13e place. Et puis, on a la course en ligne dimanche. D'ailleurs, Hugo, tu seras présent dans la sélection canadienne ce dimanche.
Effectivement, je vais faire partie des 6 coureurs sélectionnés cette année. On a la chance d'être bien représentés. Un gros merci à Michael Woods pour tous ses points World Tour qui nous permettent d'avoir plus de coureurs au championnat du monde. Je serai accompagné par Guillaume Boivin, Antoine Duchesne, Nicolas Ziolkowski, Ben Perry et Pierre-Alexandre Côté qui.
T'étais pas sûr, hein, sur le dernier.
Non, mais je ne suis même pas sûr que j'ai dit le bon nom. Je pense que c'est Pierre-André Côté. Mais bon. Je sais c'est qui, là, mais un petit problème ici de mémoire. Mais on a une équipe quand même jeune où on va avoir à transmettre un peu notre expérience. C'est évident qu'on n'a pas un gros leader, donc on va essayer d'être agressif puis prendre nos opportunités comparativement à des équipes comme la Belgique qui vont être beaucoup plus armées que nous pour faire la bataille. C'est clair qu'il faut jouer d'une façon différente, mais. Parcours très sélectif, beaucoup de petites routes, changement de direction, les bons pavés, la distance, ça va être une course très, très exigeante. J'ai bien hâte, avec l'ambiance qui règne en Belgique, je pense que ça va être toute une course. On a vu les hommes qui sont en forme présentement, je pense qu'ils vont se livrer une belle bataille, ça va être très intéressant. Si on est capable d'avoir un coureur qui peut être là dans le final, ça sera déjà un bel accomplissement pour nous. Là, évidemment, on n'est pas les plus gros favoris ce dimanche.
Et justement, tu parlais des Belges à domicile devant ce public. On a déjà eu un aperçu sur le contre-la-montre. Énormément de monde au bord de la route dans ce pays de vélo. Tu vois qui, toi, ce dimanche, comme grand favori? Alors, on parle beaucoup de Wout van Aert, de Mathieu van der Poel, de Remco Evenepoel, de Julien Alaphilippe. Toi, tu t'es fait une petite idée, une petite hiérarchie dans ta tête?
Bien, je suis certain que ces coureurs, les coureurs que vous avez nommés, ils vont être devant, ils vont être dans le jeu. Peut-être que ça va être un coureur qui va être un peu moins marqué, qui va pouvoir anticiper. Évidemment, il n'y aura pas de surprise, là. Ça va être un coureur costaud. La Belgique a plusieurs coureurs, dont Jasper Stuyven, qui marche fort aussi, qui
Oui.
est peut-être un cran en dessous, moins surveillé, mais qui a aussi une grosse force. Les Danois sont solides présentement. Michael Valgren, qui marche très, très fort. Kasper Asgreen, je pense qu'il va être très solide aussi. Ils ont des solides coureurs autour. Donc, je pense qu'eux vont être aussi des clients à ne pas sous-estimer. Mais bon, Wout van Aert, vu la façon dont il va présentement, il va être là, j'en suis certain. Le fait que c'est en Belgique, ça les motive encore plus. On va voir comment ils vont gérer la pression. Mais c'est clair qu'il y a quand même beaucoup de coureurs qui peuvent tirer leur épingle du jeu, surtout que la course, je pense qu'elle va avoir quand même. Qui va être possible d'anticiper, puis à un certain moment, ça peut bénéficier à certains autres coureurs, même de la Belgique, qui sont pas nécessairement les plus gros favoris, mais qui vont devoir bouger en premier. Ça peut les avantager d'être devant sur un tel type de parcours.
Est-ce qu'on va te voir dans l'échappée matinale?
Ouais, c'est possible, on va voir. C'est pas aussi simple que ça de commander d'y être, mais c'est clair que je pense qu'il faut mettre un Canadien, ça sera bénéfique pour lui. Si c'est pas moi qui en ai un autre, au moins, on n'a pas le poids ou la responsabilité de la course. Donc, sur un type de parcours où il y aura beaucoup de changements de direction, de petites routes, c'est tout le temps valable d'avoir quelqu'un à l'avant pour ouvrir la route.
On suivra ça avec attention, une course qui s'annonce palpitante. Il y avait également la classique de Francfort avec la victoire de Jasper Philipsen de la formation Alpecin Phoenix, sa 7e victoire cette saison. Toi qui es dans le peloton depuis longtemps, Hugo, est-ce que cette année, il y a un coureur plus qu'un autre qui t'a impressionné?
Ben, on parlait tantôt de Wout van Aert. Je veux dire, il m'impressionne par sa polyvalence, là. Quand il a gagné en haut du Mont Ventoux, c'est quand même un sacré numéro, là. J'étais là dans l'étape, ça roulait vite. Quand tu vois la distance qu'il a tenue devant en étant seul, en étant un coureur aussi costaud, c'était très impressionnant. Puis en plus, il avait fait les 4-5 premières étapes du tour, il les avait pas fait en se reposant, là. Donc, tout un numéro. Après, au championnat du monde hier, il est là sur un contre-la-montre individuel où il joue avec Ghana sur le plat, capable de gagner des sprints devant Cavendish. Donc, c'est impressionnant de voir une telle polyvalence, si on veut, et d'avoir un tel niveau tout au long de l'année. Le gars, il était présent aux Jeux olympiques jusqu'au championnat du monde sans trop de problèmes.
Tu t'attends à un duel avec Mathieu Van Der Poel, peut-être?
Oui, certainement. J'ai vu là, qu'il courait en Belgique il y a quelques jours, qu'il avait retrouvé un solide niveau. Malheureusement, il a fait une crevaison là, qui l'a empêché d'être un acteur sur le final. Mais vu la qualité de coureur qu'il est, je pense qu'il va être certainement dans le final. Puis, comme on les connaît, ils vont sûrement se faire la guerre jusqu'au dernier moment.
Dernière question, on va passer à la troisième partie. Au Canada, c'est qui le cycliste le plus connu? Il est canadien ou c'est un autre coureur?
Vous voulez dire le plus connu
Le plus
en termes
populaire.
de. Oh, c'est difficile à dire, là. C'est clair que Michael Woods, par ses accomplissements, a été
Oui.
très populaire. Après, un coureur comme Sagan, c'est une icône au Canada de par tout ce qu'il a pu gagner et la marque et tout ce qu'il dégage, là.
Il est venu
C'est
gagner
un
chez
peu
vous
la.
d'ailleurs, Peter Sagan, ce Grand Prix Québec-Montréal, il aimait bien.
Oui, certainement. Certainement. Après. Un jeune coureur comme Mathieu Van Der Poel, je pense que ça impressionne aussi beaucoup les gens. Ça dépend quel type. C'est sûr qu'il y a des coureurs de grand tour que ça l'impressionne aussi, là. Mais je dirais que Sagan est très connu et de la population en général au Québec, même s'ils ne suivent pas nécessairement à 100% de vélo.
Allez, on passe à cette troisième partie. On l'a nommée Made in Québec. Oui, tu es québécois, Hugo, et on va essayer de te connaître un petit peu plus, toi, en tant qu'homme derrière le coureur cycliste. On aimerait savoir qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas sur le vélo, que ce soit à l'entraînement ou en course?
Moi, je suis assez tranquille. J'aime bien cuisiner, bien manger, prendre le temps de me faire des bons repas. En étant cycliste, ça me permet d'avoir un peu plus de temps que ma copine qui travaille beaucoup plus. Donc, je cuisine. Sinon, on relaxe ici, prendre le temps de se promener un peu en Europe, de découvrir puis profiter du fait qu'on est ici, là, mais rien de bien particulier.
T'as un plat typique comme ça? Tu cuisines canadien à la maison? Il y a quelque chose de particulier ou pas du tout?
Non, je suis assez international. J'ai pas de préférence particulière. C'est très varié ce que je vais cuisiner. Puis j'aime la diversité dans le fait de changer jour après jour, là, de ne pas manger. Juste du riz blanc après le Tour de France, là, j'étais un peu tanné.
Comment tu es venu au vélo, Hugo? On parlait tout à l'heure de la culture peut-être un peu plus axée sur le hockey sur glace, les Canadiens de Montréal du côté du Canada. Et toi, le vélo, je sais que tu faisais du triathlon étant plus jeune, c'est ça?
Oui, exactement. Ben, en fait, mes parents m'ont inscrit au club de triathlon parce que j'étais un peu trop turbulent à l'école primaire. J'avais un surplus d'énergie à dépenser. J'ai commencé en triathlon. Vu ma nature compétitive, à chaque année, j'essayais d'être meilleur, de m'améliorer. Lorsque je suis arrivé au niveau élite, plus national ou international, en vélo, il y a le drafting, le sillonnage, là, ce qui avait pour effet de me désavantager parce que ma force, c'était le vélo. Et à ce moment-là, j'ai vu que je ne pouvais plus gagner. Donc, j'ai décidé d'aller juste faire du vélo. Puis, j'ai tombé plus en amour avec le fait de la stratégie, l'adrénaline qu'on va chercher dans un final par rapport à un triathlon qui est plus un peu comme un contre-la-montre. Puis, il y a moins de gestion, comment je dirais ça, stratégique ou jouer du coude ou prendre des virages à haute vitesse, une descente de col. Disons, on va chercher une certaine dose d'adrénaline qu'on n'a pas nécessairement sur des triathlons, surtout en jeune âge, là, où il n'y avait pas nécessairement de drafting.
Est-ce que tu avais un modèle de jeunesse quand tu étais plus petit? Tu parlais que tu regardais le Tour de France à la télévision assez tôt le matin. Il y avait un coureur comme ça que tu idolâtrais?
J'avais pas à un jeune âge, j'aspirais pas à devenir un coureur du Tour de France ou un athlète olympique. Pour moi, c'était pas vraiment accessible. Je regardais les images de l'Europe, je trouvais ça beau. C'est différent de chez nous, les grands cols. Je me disais, bon, c'est beau, c'est impressionnant. Mais j'ai jamais accroché sur une personne en particulier. C'était lui qui m'a inspiré, c'est plus David Veilleux. C'est un des premiers qui avait tracé la voie, si on veut.
Un des pionniers,
Quand
oui.
j'étais, moi, quand j'avais commencé à le sport cycliste, donc il m'a comme un peu inspiré dans le sens où il y avait le même entraîneur, je voyais ses performances, c'était un peu ma référence. Puis, il a connu une belle carrière. Il a arrêté assez jeune parce qu'il avait accompli ce qu'il voulait accomplir. Mais c'est lui qui m'a un peu démontré que c'était possible et inspiré à pousser puis à foncer dans le sport.
Ton meilleur souvenir, Hugo, dans le vélo et ton pire souvenir, ça te dit quelque chose?
Ouais, ben, je dirais mon meilleur souvenir, ça a été en 2012 quand j'avais fini quatrième des championnats du monde à Valkenburg
Ouais.
au sprint. J'étais pas loin, là, à 150 mètres, j'étais tout devant au sprint. Finalement, c'était mon coéquipier de cette année, Alexei Lutsenko, qui avait remporté, mais c'était quand même ma première grosse performance mondiale qui m'a permis, je pense, de me joindre à J2R la mondiale et vraiment lancer ma carrière professionnelle. Une des journées que je me rappelle encore que j'ai trouvé le plus dur, c'est l'année à Milan-San Remo, quand il y avait de la neige, qu'on a arrêté la course, qu'on est monté dans un bus. Moi, j'étais convaincu que ma journée de travail venait de finir et puis que c'était bon, que j'avais assez donné. Puis ils m'ont annoncé qu'il fallait que je reparte l'épreuve un peu plus loin, que j'avais plus de cuissard sec, que j'avais plus de vêtements. Je me suis dit non, c'est sûr que c'est une joke. Puis j'avais eu des problèmes de vélo avec vélo électrique à ce moment-là. Changer de vélo deux, trois fois là, une journée terrible pour finir dans la voiture balai tranquillement au chaud, là, mais on avait tous souffert cette année-là.
On t'a vu également, c'est une image qui a marqué notamment au Canada. C'était il n'y a pas si longtemps, il y a une dizaine de jours, lorsque tu as remporté le titre national dans le contre-la-montre. On t'a vu très ému à l'arrivée. Hugo, tu as dédié cette victoire à ton jeune frère qui est décédé, on le rappelle, il y a quelques années, c'était en 2012.
Oui, exact. Ben, je n'ai pas la chance de gagner souvent. Donc, j'étais content d'avoir eu ça avec ma famille qui était là. C'était un bon moment. C'est clair que je le garde tout le temps dans ma mémoire. C'était probablement mon fan numéro un qui me suivait partout. Et en fait, mon frère est décédé lorsque j'ai fait mon premier stage d'entraînement avec Joueuse à la Mondiale, ouais. Je suis rentré à la maison quelques jours avant Noël. Je l'ai vu à peu près quelques heures, puis il est allé faire son footing, si on veut, et il s'est fait frapper par un véhicule. Il est décédé. Donc, c'est sûr, je le garde tout le temps en pensée. Puis mon objectif ultime là, de carrière, c'est de gagner une étape au Tour de France à son honneur. Si je peux réussir à accomplir ça, je vais être très heureux. Évidemment, les victoires sont chèrement acquises, mais à chaque année, je m'en rapproche. Puis c'est un peu avec cet esprit-là que je m'entraîne tous les jours, puis que je repousse mes limites et que je suis capable de faire les sacrifices que ça demande au quotidien pour rester à un tel niveau, continuer de progresser. Mais c'est ce qui me garde motivé à tous les jours d'atteindre cet objectif-là.
On te le souhaite en tout cas. Ce que tu aimes le plus et le moins dans ton métier de coureur cycliste professionnel. Alors là, on a beaucoup de réponses variées, notamment sur ce que les coureurs aiment le moins. Généralement, ça tourne autour de la nourriture.
Ouais, c'est un bon point, je suis d'accord. Il faut manger moins de dessert dans les moments clés. Fait que ça, c'est sûr qu'on se prive, mais c'est pas mauvais parce que sinon, peut-être que je serais un peu plus gros. Après, ce que j'aime, je pense que c'est la liberté que ça nous procure, que ce soit à la maison, d'aller rouler dans les montagnes, on découvre des endroits magnifiques, on visite d'une autre façon plusieurs endroits du monde à vélo. Donc ça, c'est vraiment une partie que j'aime de notre sport parce qu'on n'est pas vraiment dans un stade, on a une certaine liberté. Puis même à la maison, même si on est de plus en plus suivi avec la technologie, il reste ouais. qu'on est maître de notre temps pour faire nos entraînements comme on le veut. Donc ça, je pense que c'est une des beautés de notre sport qui nous permet d'avoir la liberté.
On rappellera également que la semaine prochaine, tu fêteras ton anniversaire, tes 31 ans, en espérant que, pourquoi pas, une bonne performance au championnat du monde. On va terminer sur cette question, ça sera le mot de la fin. Si Hugo Hull, allez, en se baladant à Monaco, tombe sur une lampe magique, il la frotte, il y a un génie qui sort et tu as le choix d'exaucer un vœu. Tout et n'importe quoi, tu choisirais quoi?
Moi, gagner une étape du Tour pour l'honneur de mon frère. Ça serait mon choix ultime.
Et si tu gagnes une étape sur le Tour de France, tu nous fais parvenir un petit peu de sirop d'érable, vu que tu es ambassadeur de la marque? On est OK?
Aucun problème, certain.
Eh bien, pas de souci. Merci beaucoup, Hugo Hull, d'avoir été notre invité. On a passé un très bon moment en ta compagnie et on espère te revoir à l'avantage, notamment peut-être sur les championnats du monde et puis dès l'année prochaine avec ta nouvelle équipe, des nouvelles couleurs sur le maillot.
Merci de votre accueil, puis à très bientôt.
Et nous, on se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro de Bistro Vélo. Et en attendant, portez-vous bien et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.